Bonsoir, bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Et si on s'écoutait. Nous sommes le 26 mars 2025. Le podcast de l'émission sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Dans cette émission, nous recevons aussi bien une personne qui, par son chemin de vie, explore sa relation à l'écoute, ou nous recevons aussi un acteur de la société qui œuvre pour l'écoute et le bien-vivre ensemble. L'idée est d'illustrer par l'action ce que veut dire s'écouter, créer du dialogue, du lien en société. On explore un autre pan de l'écoute, celle des autres, et comment cohabiter en fonction des désirs de chacun dans le monde d'aujourd'hui. Je suis Chloé Lenders et je suis accompagnée de Marion Milsan en studio.
Salut.
Et de Sidi en régie.
Bonsoir.
Et ce soir, on est ravis d'accueillir Myriam, qui est donc chef de cuisine volante. C'est comme ça que tu décris ton activité. En fait, c'est un service traiteur. Tu crées des menus sur mesure pour des événements. Tu vas nous expliquer tout ça. Et puis, tu es aussi animatrice d'ateliers pour l'école comestible de Provence. Et tu es journaliste, la plume du média Restore.
Tout à fait.
Un collectif qui œuvre vers une restauration plus juste, plus durable. Donc ce soir, une émission qui sera donc sur l'écoute, par la cuisine, par notre rapport au vivant, aux saveurs, au goût, à la transmission, à la créativité. La cuisine qui rapproche et réunit, on goûte, on s'écoute, on se rencontre, on se parle, on se regarde, on déguste. Comment vous allez ce soir, les filles ?
Comment ça va, Myriam ?
Ça va très bien, merci beaucoup de m'avoir invitée.
Et toi, Marion ?
Je vais bien, ouais. Merci, ouais, ça va. Et toi, Chloé ?
Ça va aussi, je suis très contente, ça éveille un peu les papilles, d'autant que Myriam, tu nous as fait le bonheur de nous ramener aussi des petits cookies. Merci beaucoup, parce que tu es sur un événement qui va se dérouler au Mucem
ce week-end. Ouais, on sera avec ma copilote Vegan sur Mars ce week-end à la fête des plantes, et donc on fera à manger tout le week-end, donc je vous ai ramené des petites douceurs.
On n'a pas encore goûté.
On les goûtera après l'émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet, sur ton parcours, sur tes projets, on a l'habitude de poser cette question à notre invité. C'est vrai que ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que ça évoque le titre de notre émission, et si on s'écoutait, pour savoir un petit peu ton rapport à l'écoute dans ta vie.
Je pense que l'écoute a une place assez importante dans ma vie, que ce soit l'écoute de moi-même ou l'écoute des autres. Je pense que l'écoute, c'est un pont. Ça nous permet de regarder les autres, de considérer les autres. Et je pense que dans une vie où les choses vont très très vite, moi je mets beaucoup d'importance sur l'écoute.
Et c'était un apprentissage pour toi, ce rapport à l'écoute ?
Ah oui, c'est pas inné. Pas du tout. Non, j'aurais aimé naître sage, mais non, c'est un apprentissage. Et je pense que, d'ailleurs, je viens pas d'une famille qui est très dans l'écoute, donc c'est pas quelque chose qu'on m'a transmis, mais c'est quelque chose que j'ai appris à faire parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était ma bouée de sauvetage, quoi. Et que soit t'es toute seule, soit tu décides de t'écouter et d'écouter les autres. Et là, dans ce cas-là, on peut tous faire un super truc ensemble, quoi.
Et puis, tu peux dire qu'en ce moment, t'y arrives ?
J'y arrive, je navigue, c'est pas linéaire quoi, c'est un peu mouvementé, mais bon, c'est la vie finalement.
Oui, je crois qu'il y a une histoire aussi de saisonnalité, là on a débarqué dans le printemps, après l'hiver qui peut être un peu...
Tout à fait.
Un peu rigoureux on va dire, là le printemps c'est un peu la renaissance, reconnectée à d'autres choses, et l'écoute elle peut être aussi différente.
Moi j'ai l'impression que les hivers, en tout cas depuis que je suis indépendante, du coup c'est des périodes où je travaille un peu moins, et c'est des périodes de grosses remises en question, et donc du coup c'est une vraie hibernation, et là le printemps arrive doucement, donc ça va à peu près avec les décisions que j'ai prises pour le reste de mon année, donc voilà, j'attends maintenant que le soleil soit là tous les jours, et du coup je pourrais
tous
assumer...
Tous les jours, t'entends le soleil. Est-ce que justement tu t'aurais envie de te présenter un petit peu, de nous raconter qui tu es à travers cette femme devant nous ?
Alors, je suis Myriam, j'ai 32 ans, j'ai créé Zarma il y a 4 ans maintenant. Zarma, c'est donc un service de chef volante, comme j'aime bien l'appeler, où je fais maintenant majoritairement du traiteur. Avant, je faisais beaucoup de pop-up. Et puis en fait, l'activité s'est transformée et donc maintenant je fais surtout de l'événementiel et aussi des mariages parce que j'adore ces événements. Donc ça, c'est mon projet principal. Et sinon, depuis le début de cette année, j'ai commencé à donner des ateliers à l'école comestible Provence. Donc en fait, je suis référente dans une école des quartiers nord. J'ai 12 classes à ma charge et en fait, on fait des ateliers d'éveil alimentaire avec les enfants. Et ça, c'est vraiment génial.
Ouais, on parlera tout à l'heure de la place dans la transmission de la pédagogie avec la cuisine. Ouais. C'est super intéressant pour les jeunes générations.
Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. Et mon dernier projet, c'est que j'ai commencé à écrire pour la newsletter du collectif Restore. Donc j'écris avec ma copine Lorraine Petit. Nous sommes les deux plumes de ce mouvement. Et c'est vraiment cool de pouvoir reprendre l'écriture que j'avais un peu laissée de côté, puisque ma première formation, c'était le journalisme, que je n'ai pas pratiqué très longtemps, puisque j'ai vite sauté dans le train de la cuisine. Et donc là, je suis très contente de pouvoir repartir vers ces premiers amours.
Et la cuisine a toujours fait partie de ta vie ? Tu es revenue comme un amour de jeunesse ou...
Non, je crois que j'ai toujours eu une relation un peu amour-haine avec la cuisine, donc ça n'a pas été quelque chose d'immédiat. J'ai grandi dans une famille multiculturelle puisque franco-algérienne, donc bon, la cuisine avait une place énorme. Chez moi, la cuisine, ça répare, ça dit ce que les mots ne disent pas, enfin voilà, il y a vraiment un rapport très intense, mais qui peut aussi aller vers les troubles alimentaires, toutes ces choses. Donc en fait, ça a toujours été un truc un peu... en dents de scie, mon rapport avec la nourriture, jusqu'au moment où j'ai décidé de m'en emparer et d'en faire mon métier. Spoiler alerte, ça continue d'être un peu en dents de scie. Hein.
Oui, je sais plus qui disait ça, que cuisiner, ça serait révélateur de la qualité du lien qu'on entretient avec soi.
C'est très bien dit, ouais. Je suis tout à fait d'accord.
C'est quand même assez lié aux émotions aussi, à notre personnalité, la manière dont on s'investit dans une cuisine ou pas d'ailleurs.
Ouais,
l'art vrai. De la table aussi, je crois que dans tes événements, c'est aussi quelque chose qui est important pour toi. Tout l'art de la table, la décoration, les partenariats avec les fleuristes, avec...
Ouais, exactement. Et depuis que je me suis lancée en indépendante, j'ai en fait la chance d'avoir rencontré... Alors, je ne veux pas être sexiste, mais c'est que des femmes sur mon chemin qui sont soit fleuristes, soit qui chinent de la déco, de la vaisselle, soit cuisinières aussi, soit organisatrices d'événements. Et en fait, du coup, j'ai vraiment pu m'entourer de toutes ces femmes. Et quand je fais des événements, quand je participe à des événements, ben en fait, j'ai l'impression de le faire en famille maintenant. Donc, je le fais souvent avec des copines. Et évidemment, il y a un lien de travail. Et quand on travaille, on est au travail, quoi. Mais... il y a un truc très familial qu'on a instauré et que je trouve très plaisant.
Et justement, en fait, quand est-ce qu'un jour tu t'es dit « Tiens, je crois que j'aime tellement ça que j'ai envie d'en faire mon métier ?»
J'étais à mon bureau dans une société de production parisienne. Je venais de terminer mes études de journalisme et on me donnait que du dérush à faire. Et je me sentais vraiment... triste et j'avais vraiment l'impression de pas être là où je devais être. Et j'ai travaillé sur un Déraciner des ailes où j'ai interviewé beaucoup d'ostréiculteurs, d'agriculteurs, en fait tous ces gens qui travaillaient avec leurs mains. Et au bout de, je sais pas, je crois que c'était 3 mois d'enquête, je me suis dit, mais en fait, stop, quoi. J'ai pas envie de prendre le métro tous les jours pour aller bosser. J'ai envie de faire des trucs avec mes mains. Mais voilà, comme je venais d'une famille de parents, on va dire... intellectuel, c'était impossible pour moi de me dire « Ah bah tiens, je vais vers des études manuelles. » Donc j'ai suivi, j'ai fait du journalisme, bon j'ai adoré, hein, mais en fait c'est pas ça que j'avais envie de faire, quoi. Donc voilà.
Et à travers la cuisine, du coup, c'est quoi que tu recherches finalement ? C'est créer du lien, créer des souvenirs, c'est transmettre des rencontres, permettre des rencontres ?
Je pense que c'est transmettre de l'amour, déjà. Premièrement, je trouve que c'est là, avec la cuisine, on peut, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut vraiment dire ce que les mots n'arrivent pas forcément à dire. Et on peut vraiment dire aux gens qu'on les aime en leur faisant à manger. Et je crois que j'ai un truc un peu mère poule. Et en fait, quand j'aime les gens, j'adore qu'ils mangent, quoi. Donc non, je ne veux pas les manger moi-même après, comme on me l'a souvent dit. Mais j'aime bien les remplir d'amour, mais les remplir avec de la nourriture aussi. Et puis après... plus mon chemin avance avec la nourriture, plus faire à manger, pour moi, c'est devenu aussi politique. C'est devenu un engagement. C'est les approvisionnements, c'est comment mieux manger, comment apprendre quels macronutriments notre corps a besoin pour bien fonctionner. Enfin voilà. Et tout ça, c'est passé par l'écoute de soi, de son corps.
Donc c'est marrant lié. Parce que tu parlais de l'amour et je fais une petite aparté, mais tu connais les cinq langages de l'amour ?
Tout à fait.
Ouais, et donc c'est marrant parce que je me dis, où est-ce qu'on place ça ? Alors, est-ce que c'est par les petites attentions ?
Ouais, je pense. Ouais, et moi, je pense que c'est vraiment ça, mon langage de l'amour.
Bah, y en a, je pense qu'on a les cinq, mais il y en a qui sont plus forts.
En tout cas, il y a des curseurs qui sont plus poussés et je sais que le mien, vraiment, les petites attentions, c'est...
Et quand est-ce que tu te dis, ok, je me lance, et là, est-ce que tu te dis, je me lance toute seule ? Est-ce que je me lance dans une équipe ? Est-ce que je rejoins...
Ah non.
Je pense c'est AP Cuisine.
Ça commence pas comme ça. Ça commence par une démission, déjà, de ma boîte de prod à 23 ans. Donc, j'étais vraiment toute jeune. J'annonce à mes parents que je veux faire de la cuisine. C'est la crise. Vraiment, c'est pas possible. Donc, voilà, ça se passe très mal.
Petite parenthèse, on cuisinait bien chez toi ? Enfin, les repas étaient importants ?
Oui, très important. Ça a toujours été des plats cuisinés. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais été des plats tout préparés, quoi.
Mijotés.
Voilà, c'est ça. C'était mijoté pendant des heures.
Moi aussi, moi aussi.
Et donc une grosse remise en question, je me dis qu'est-ce que je fais, etc. Et en fait je passe je crois un mois et demi, deux mois, trop mal, je travaille pas, je rumine, je sais pas quoi faire, et puis un matin je me lève, je prends un espèce de CV minable avec les trois recettes que je sais cuisiner à l'époque, et je vais taper à la porte de tous les restos que j'aime bien à Paris. Voilà, je me dis, on verra. Et je leur dis...
Culottée,
oui, hyper audacieuse.
Ouais, ouais, ben je crois que je marche vraiment comme ça. Moi, je marche au... Allez hop, un déclic, je le fais, je réfléchis. Ouais, très, très instinctive. Je réfléchis pas mille ans, sinon je le fais pas. Et en fait, j'ai eu la chance de tomber sur un endroit qui s'appelle Ten Bells à Paris. C'était une des premières bakeries avec des pains au levain et tout. Puis donc, c'était des sandwichs qui étaient très travaillés. Il y avait des tourtes, on faisait la pâte feuilletée. En fait, c'était une cuisine de 100 mètres carrés, tout en verre, avec un pôle pâtisserie, un pôle salé, un pôle pain. Enfin, c'était incroyable. J'avais l'impression que c'était Disney, quoi. Et donc, je suis arrivée. En fait, j'ai eu la chance de tomber sur deux femmes qui avaient ouvert ça, qui étaient toutes les deux franco-britanniques. Donc déjà, une autre culture, une autre manière de penser. Et une des deux avait eu le même parcours que moi, puisqu'elle avait été journaliste. Et puis, elle avait... assez rapidement arrêtée. Et pareil, elle était rentrée dans un resto et elle l'avait pris en stage. Et voilà, ça a commencé comme ça. En fait, on m'a fait confiance. Mmh. Et généralement, c'est là où je suis la meilleure.
Donc Paris, première expérience en cuisine. Et ensuite, comment ça s'est...
Ensuite, il y a eu encore...
Développé.
Alors après cette expérience, je suis partie un mois et demi au Canada pour faire de la permaculture. Enfin, pour apprendre la permaculture, parce que j'avais vraiment envie de comprendre d'où venaient les légumes que je cuisinais. Mmh. Et puis en fait, je me suis retrouvée dans une ferme où la maman était un peu débordée. Et elle m'a dit, écoute... tu cuisines super bien, donc t'inquiète, chef à domicile pour nous, tu travailles une heure de moins le matin, une heure de moins le soir, et puis c'est toi qui fais les repas pour tout le monde. Donc ils étaient entre 8 et 11 tous les jours, trois fois par jour, donc c'était assez costaud.
Ah ouais.
Et en fait, j'ai adoré ça parce c'était ma première expérience.
Quelle
de
école.
Ouais. Tu ne peux pas cuisiner avec... Non, mais surtout, tu ne peux pas cuisiner avec autre chose que ce que tu as. Mmh. Donc tu te débrouilles. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et ça, j'ai adoré parce que je crois que j'aime pas la page blanche. Et j'aime bien avoir des petites contraintes, malgré mon cerveau qui part dans tous les sens. J'ai besoin d'avoir un petit peu de contraintes. Et voilà, donc j'ai adoré ça. Et puis ensuite, je suis rentrée. J'ai encore fait, je crois, un an et demi, voire deux ans à Paris, dans différents restos. Et puis après, j'ai rencontré mon amoureux, qui est marseillais. Et,
Marseille t'a appelé.
Et Marseille m'a appelé depuis quelques années déjà. Je descendais pas mal parce que j'avais une copine de fac dont les parents habitaient ici. Mon papa avait de la famille à Marseille, donc c'est une ville qui m'a toujours vachement appelée, quoi. Mais bon, j'avais pas trop le courage de descendre toute seule. Et en fait, lui, quand je l'ai rencontré, ça a été une évidence. Et en fait, à cette époque, je travaillais dans un resto, ça se passait pas très bien. Et un jour, en plein service, je me coupe le pouce et je m'ouvre le pouce en deux. Il y a les tendons qui sortent de la gaine. Enfin, voilà, c'est un truc bien hardcore. Le lendemain, je me fais opérer. Et quand je sors du bloc, on me dit, en fait, tu peux plus cuisiner pendant trois mois et demi, là. Et donc, j'ai appelé mon amoureux et je lui ai dit, amène le camion, je déménage, quoi, c'est bon. Et donc, je suis arrivée à Marseille. Et pareil, de rencontre en rencontre, j'ai failli commencer dans un resto avec une fille que j'ai rencontrée qui aujourd'hui, je l'adore. Mais en fait, je me suis fait les ligaments croisés 2 semaines avant de commencer. Et en fait, c'est ça, c'est, mon corps m'envoie beaucoup, beaucoup de signaux. Ouais. Et en fait, cette fille, aujourd'hui, on s'entend super bien. C'est une super chef que j'admire beaucoup. Mais c'est vrai que ça n'aurait pas matché, je pense, dans le travail toutes les deux. Et elle le sait. Donc voilà, on m'a un peu sauvée de ça. Mmh. Et puis ensuite, j'ai bossé pour Alpha Alimentation. Je ne sais pas si vous connaissez. Ils faisaient de la livraison de repas. On a notamment... cuisiner à la guinguette du couvent tous les étés pendant 3 ans, donc c'était assez folklore, quoi. Et voilà, c'était ma dernière expérience. Et puis après, c'était le Covid, opération des ligaments croisés, bam, 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 coup de folie. Et je me dis, au bout de 6 mois sans bosser, contrainte, quoi. Bon, allez, stop, là, c'est bon, je lance mon truc. Et un peu par hasard, il y avait les pop-up chez Deep Coffee Roaster à l'époque. Un peu par hasard, une copine peut pas faire une date. Et puis elle me dit, est-ce que tu es chaude de faire ma date la semaine prochaine ?
Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est un pop-up ?
Un pop-up, c'est un restaurant qui nous prête sa cuisine, qui prête sa cuisine à un cuisinier.
Pour un événement éphémère.
Exactement. Mmh. Et ça marchait plutôt bien, ça c'était donc en 2021, donc on sortir du Covid, donc on était tous, on avait envie de vivre dehors. Et donc elle me dit, est-ce que ça te va ? Du coup, t'as une semaine pour pondre une identité visuelle, un logo, une marque, un truc. Je dis, bah vas-y, on essaye quoi. Et en fait, je fais une date, ça se passe super bien avec Tony de Deep, puis 2 dates, puis 3 dates, puis en fait ça s'est jamais arrêté quoi. Donc en fait, je me suis jamais dit je vais monter mon business. Ouais. Ça s'est présenté et j'ai pas arrêté et je me suis laissée prendre dans la vague et c'était trop cool quoi.
Et aujourd'hui, du coup, Zarma, c'est un mélange de saveurs, de couleurs, de textures aux influences méditerranéennes, une cuisine généreuse avec plein d'amour, comme tu disais, spontanée. Ouais. Et pourquoi Zarma ? Parce que je crois que ça veut dire faire genre.
Oui, c'est ça.
Pourquoi ce choix ?
J'ai choisi Zarma. Bon, déjà, c'était un surnom qu'on me donnait depuis longtemps. Zarma parce que j'ai donc des origines algériennes, donc ça veut dire faire genre, et je pense que je me suis lancée à un moment où il y avait une très grosse fame autour de la nourriture, les restos, les chefs, qui est encore présente aujourd'hui, hein. Et pour avoir évolué dans ce milieu, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de sauver des vies alors que vraiment ils font juste à manger, et du coup Zarma ça me permettait de faire une petite blague pour dire que je me prenais pas au sérieux quoi. Voilà.
Et Marseille, en quoi elle t'inspire ? Je me questionnais sur l'inspiration que peuvent avoir les chefs dans la créativité de leurs plats, de leurs menus. Quand tu montes des projets pour des événements, à quel point elle t'inspire la ville ? Si elle t'inspire d'ailleurs ?
Oui, elle m'inspire. Et elle m'inspire tellement que je ne suis pas sûre que j'aurais monté mon service traiteur si j'étais restée à Paris d'ailleurs. Marseille, ce qui m'inspire d'abord, c'est le terroir. Enfin, je veux dire, on a des produits exceptionnels ici, qui sont à notre portée. Les prix sont quand même, étaient plus accessibles, parce que maintenant, ça devient compliqué. Mais il y a 4-5 ans, je faisais encore des courses sans me prendre trop la tête. Aujourd'hui, c'est des fiches techniques qui sont grammées, parce qu'en fait, tout coûte très cher. Mais je pense que Marseille m'inspire aussi beaucoup, parce que via mes origines, pour moi, c'est le mix parfait entre mes deux cultures. Parce que Marseille, il y a un peu d'Alger, mais c'est quand même la France. Donc j'ai grandi avec des influences très françaises, mais aussi des influences algériennes. Et en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir un pied à gauche, un pied à droite, et moi au milieu. Et Marseille, c'est vraiment mon centre, quoi. Donc ça ne peut que m'inspirer pour... Mais pour tout, d'ailleurs, je pense pas que pour la cuisine.
Mais quand tu te lances, justement, tu te dis, ok, vas-y, donc tu te le dis pas vraiment, finalement.
Non.
Je me lance pas. En fait, je fais et la vie m'emmène à me lancer, finalement. Est-ce que, justement, je me demandais, quand tu parlais, finalement, tu te dis indépendante, mais je me rends compte que finalement, t'es quand même très en lien avec les gens, parce que donc, ton service traiteur, t'es seule quand tu prévois tout ça, ou est-ce que t'es toujours accompagnée d'une personne qui cuisine avec toi, déjà. Et en fait, oui, donc le lien, en fait, je pense que t'es amené justement par ton activité et par justement cette mobilité que t'as à aller dans plusieurs endroits différents, à créer beaucoup plus de liens, peut-être, que si t'étais dans un lieu fixe.
Tout à fait. Alors, je cuisine seule pour les petits événements. En fait, c'est vraiment un souci économique, quoi. Si je peux rémunérer quelqu'un, évidemment que je le fais. Par contre, pour les gros événements type mariage, non. Là, j'ai besoin d'une équipe. C'est vrai que c'est souvent les mêmes personnes, parce que du coup, on a appris à travailler ensemble et c'est trop cool. Mon mari est régisseur au ciné, donc en fait il est très fort dans tout ce qui est orga, donc ils m'aident beaucoup pour les mariages. Donc oui, ça me permet d'être toujours en lien avec des gens, et ça c'est super cool parce qu'on passe quand même d'un milieu de la restauration, on est dans un restaurant. Alors moi j'ai fait beaucoup de cuisine ouverte, donc j'ai pas trop connu la cuisine fermée, on est seul, mais donc on voit des gens en permanence. Ah, tu te retrouves dans ton labo solo, ça fait un peu bizarre au début. Mais en fait, t'es tout le temps en lien avec des gens, que ce soit les clients, que ce soit les fournisseurs, que ce soit les gens avec qui tu travailles. Et puis, t'es amené à faire des rencontres que t'aurais pas fait sans, quoi. Je sais pas, des centres d'art, des écoles, des choses vers lesquelles tu serais pas allé sinon. Mais c'est vrai qu'à la fin de la journée, tu travailles quand même beaucoup toute seule. Mmh. Donc ça, moi, c'est un truc qui commence un petit peu à me amuser, ouais, de travailler seule.
Et du coup, les collaborations que tu développes, c'est un critère pour toi que ce soit des projets engagés? Parce que tout à l'heure, tu me disais que tu réfléchissais aux enjeux environnementaux, de la production à la distribution. Oui. Est-ce que tu sélectionnes aujourd'hui, tu as cette possibilité de le faire, de choisir vraiment tes projets et d'accompagner des événements engagés sur la globalité du...
Alors je pense qu'il y a plusieurs types d'engagement. Il y a un engagement sur lequel je transige pas, c'est la saisonnalité. Ça, c'est pas envisageable, quoi. C'est, pour moi, c'est la base. La provenance surtout des fruits et légumes, ça, c'est hyper important. Évidemment que la crèmerie, quand je peux la prendre direct producteur, je le fais. Mais encore une fois, il faut être réaliste, il y a un souci économique. Je fais très peu de protéines animales, donc du coup, je me coupe quand même de ce gros budget. Donc ça, c'est mon engagement, on va dire, qui est dans l'assiette. Après, évidemment, l'écologie au sens tout ce qui est matière recyclable, etc. Bon, ça, j'essaye de le faire autant que faire se peut, parce qu'en fait, bon, on est cette génération, donc j'arrive même pas à...
Oui, ça paraît presque évident.
Oui, c'est ça, en fait. Pour moi, j'arrive même pas à le vendre comme un plus. Pour moi, en fait, tout le monde devrait faire ça. Si on a les moyens de le faire, tout le monde devrait le faire. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et oui, il y a l'engagement moral aussi. Un engagement moral, pour moi, c'est, par exemple, depuis que je me suis lancée, je sais que chaque année, je m'autorise à participer à 3 événements bénévoles. Je sais que je fais mon chiffre d'affaires sur l'année et je sais que je vais m'autoriser 3 fois dans l'année. Par exemple, le dernier en date, c'était l'année dernière à La Friche, on a fait chef de Hello Ernest. Sinon, c'est le Refugee Food Festival. Enfin, y a des choses comme ça. Pour moi, c'est je suis obligée. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette obligation vers moi-même, quoi, de le faire, parce que je trouve que c'est trop important. Et dès qu'on a une mini visibilité, ben, j'estime que il faut tout faire. Si on peut se le permettre, encore une fois, il faut tout faire pour aider les autres, quoi, parce qu'on a une chance dingue.
Justement, en fait, on peut revenir aussi sur les projets auxquels tu participes. Notamment moi l'école comestible, en fait c'est marrant parce que l'année dernière je travaillais dans des écoles et j'ai vu, je pense, des collègues à toi, si ce n'est toi, mais je pense pas parce qu'on se serait peut-être reconnu, parce que je faisais des interventions dans des écoles et en même temps se déroulait dans la grande salle aussi une intervention d'école comestible qui venait faire des plats avec les enfants. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et vraiment, genre, j'arrêtais pas de leur poser les questions, c'était super. Et donc, voilà, tu peux expliquer aussi un peu ce que c'est, mais j'ai une question. Comment, si quelqu'un a envie de participer justement à l'école comestible, donc en dehors du fait que ce soit une enseignante ou un enseignante, ouais, bon, t'as compris. est-ce que, par exemple, je sais pas, moi, je pourrais me dire, bah tiens, je vais postuler à l'école comestible et je vais voir si c'est possible. Est-ce qu'il faut avoir quand même une certaine expérience derrière. Enfin voilà, je veux bien que tu nous en parles.
Ouais, avec plaisir. L'école comestible, c'est donc une association qui a été fondée à Paris à la base et qui est arrivée en Provence il y a quelques années. Il me semble que c'est la 3e année. Et donc on est présent dans des écoles sur tout le territoire. Et en fait, moi j'appelle ça de l'éveil alimentaire parce que évidemment qu'il y a une partie cuisine, mais comme on a pas de cuisine, bon, ça reste des choses quand même assez simples. Donc, on fait ça dans les écoles primaires. Est-ce que n'importe qui peut aider? Oui, étant donné qu'on a toujours besoin de bénévoles. En fait, moi, j'ai mes classes. Je vais faire par exemple un atelier avec les CP, ils sont 15. J'aime bien avoir des groupes de 3 ou 4 pour pas que ce soit pour pas me faire déborder, voilà. Et pour surtout avoir le temps de passer avec chacun et discuter avec eux et voilà, j'ai pas du tout envie de les bâcler quoi. Et donc ça, on a toujours besoin de bénévoles, c'est des petites mains en fait qui viennent nous aider à aider les enfants à bien positionner les mains sur le couteau, à montrer ce légume, on a besoin de l'éplucher, celui-ci, c'est pas la peine. Et voilà, et toujours rester dans un dialogue avec eux. Et voilà, moi, je suis complètement fan de ce projet. Je trouve ça génial et c'est tellement épanouissant, en fait, de transmettre aux enfants.
Ouais. Et j'ai vu juste que sur l'Instagram de École Comestible, il y avait des masterclass. Est-ce que c'est des masterclass qui sont organisées par l'École Comestible ou est-ce que c'est des masterclass qui sont gratuites?
C'est des masterclass qui sont gratuites puisque souvent elles sont en ligne. Mais par contre, il faut être membre de l'association. Donc en fait, il suffit juste de se connecter sur LOASO et c'est sur donation libre. Donc à partir de 1 euro, on peut être membre. Et dans ce cas-là, on peut être bénévole, on peut participer aux apéros, aux webinaires. En fait, il y a plein de choses pour essayer de parler du bien manger et de l'accessibilité du bien manger au plus grand nombre. Quoi.
Mmh. Oui, la pédagogie, la transmission. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où on mange avec ses peurs, ses émotions, alors que l'essentiel, c'est de se restaurer l'organisme en lui apportant les nutriments nécessaires, comme tu disais tout à l'heure. Manger à sa faim, écouter son corps, c'est peut-être ça aussi que tu transmets à ses enfants, l'apprentissage à la faim, au rapport qu'on a par rapport à ça.
En fait, ce qui est marrant, c'est que quand je suis arrivée à l'école comestible, j'ai commencé en tant que bénévole. Donc, en fait, j'assistais des ateliers. Et puis, comme d'habitude, la vie m'a proposé cette place en tant que référente. Donc, je l'ai saisie. Et en fait, j'avais fait des ateliers dans une école qui est dans le 7e à Marseille. Et dans le 14e. Donc, aujourd'hui, je suis dans le 14e. Donc, j'avais vraiment l'exemple de ces deux écoles. Et quand j'étais dans le 7e, j'étais vraiment hallucinée par le niveau des enfants où les gamins de 6 ans te parlent de l'impact carbone et tout. Je me disais, wow, il faut être costaud pour leur apprendre des choses à ces minots. Mais en même temps, c'est super parce que ça veut dire que c'est des générations qui avancent et tout. Et quand je suis arrivée dans le 14e et que j'ai dû faire mes ateliers, donc je n'étais plus bénévole, mais j'étais la référente. Je veux pas dire que j'ai déchanté, parce que déchanter, ce serait péjoratif. Mais en fait, je me suis rendu compte que on n'a pas du tout tous la même réalité, quoi. Et que leur parler d'impact carbone, c'est à des années-lumière de ce dont on doit parler, puisqu'il y a quand même des enfants qui viennent à l'école et qui n'ont pas mangé le matin. Et qui sont dans un état de surexcitation quand ils voient une feuille de salade, parce que ils savent que c'est peut-être la seule qu'ils vont voir de la semaine. Peut-être qu'ils en verront à la cantine, évidemment. Mais chez eux, il n'y a pas ça. Donc voilà, je suis là pour juger personne, mais en tout cas, quand t'arrives dans des zones d'éducation prioritaire comme c'est le cas là où je suis, tu te rends compte de tes privilèges et tu te rends compte aussi que tu évolues dans un microcosme qui n'est pas celui du plus grand nombre. Et en fait, c'est devenu encore plus normal pour moi de faire ce que je fais, parce que si je peux leur transmettre ne serait-ce qu'une notion de saisonnalité, en fait, à la fin de la journée, j'ai gagné des trucs, quoi. Là, le dernier truc en date, c'est qu'on fait une recette de datella, par exemple. C'est donc du Nutella, mais sain, avec des dattes, quoi. Et en fait, le dernier cours que j'ai fait, je crois que c'était des CP. Et c'est pas si facile, les CP, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, à la fin, ils étaient tous là, genre, « Waouh, c'était tarpin bon, on veut plus acheter de Nutella, on veut faire du datella à la maison. » Et en fait, c'est bête, hein, mais je finis ma journée et je me dis, mais j'ai servi à quelque chose quoi aujourd'hui. Donc, c'est vraiment cool d'avoir ce retour direct avec les enfants.
Voilà, pour le coup, tu es utile.
Ouais. Ah oui, non, ça ment pas du tout. Et du coup, il y a des mamans aussi qui viennent, parce que donc, comme je suis dans le 14e, j'ai pas beaucoup de bénévoles. Ceci est un appel à bénévoles, si vous voulez venir m'aider, je suis super cool. J'ai pas beaucoup de bénévoles, donc souvent c'est les mamans qui viennent me donner un coup de main. Et ça, c'est bien aussi, parce que du coup, c'est elles souvent qui font à manger. Et il y en a pas mal qui m'ont dit, depuis que vous avez fait des interventions à l'école comestible, on a changé notre mode d'alimentation. Moi, j'ai commencé à leur parler, par exemple, de composition d'assiettes, qui est normalement pas dans le programme. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas comment composer les assiettes, les mamans non plus. Donc, on a parlé de, des micronutriments, etc. Et elles me disent, ah ben voilà, maintenant, je fais du batch cooking, je fais mes vinaigrettes en avance, je sais que les enfants, ils ont mangé assez de protéines. Bon.
Mais ouais, c'est bon, quoi. Gagné. Mais en fait, c'est marrant parce que sur ton site internet, tu mets aussi quand même beaucoup en avant le vivant.
Oui.
Et c'est vrai qu'on... Mais ça, c'est un peu la société hein, qui fait que j'ai l'impression que le vivant est quand même très peu délaissé, mais parce que aussi financièrement étant très compliqué, mais le vivant d'ailleurs, j'allais dire un peu sous toute forme, hein, le vivant, l'humain, le vivant, ce qu'on a dans l'assiette, et que oui, c'est des plats réchauffés, surfaits, et en fait, c'est fou. Enfin, la semaine dernière, je suis allée dans un restaurant avec le travail. Et en fait, je me dis juste, mais en fait, parfois, on paye un restaurant qui ne fait pas maison. Et oui. Je me dis, mais juste, c'est des cuisines pour réchauffer. Mmh. Enfin, ça existe, en fait. Mmh. Et je trouve ça assez fou. Assez fou que ça puisse être encore le cas. Donc, je trouve qu'en effet, retravailler le vivant avec des enfants qui sont pleinement en vie aussi, c'est important. Ouais, ouais,
et puis, leur montrer aussi que ce qu'on peut considérer... à la maison comme une corvée et en fait ça part d'un autre combat hein. C'est que c'est les mamans qui font à manger, c'est qu'il y a une charge mentale qui repose sur elles et donc du coup quand elles font à manger faut pas venir traîner dans les pattes, donc en fait le minot il peut pas apprendre et c'est normal en fait, et du coup leur montrer que cuisiner ça peut être fun,
oui, c'est pas juste se nourrir,
ouais,
c'est aussi toute la préparation
tout
en amont,
ce qui va autour,
sentir les odeurs, regarder,
ouais. Et les
goûter.
Moments aussi qu'on passe ensemble sont hyper important, et quand tu parlais tout à l'heure du fait que aujourd'hui on n'a pas le temps et donc on achète des trucs préparés et tout, que tout coûte cher, mais en fait acheter des trucs préparés ça coûte très cher, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux enfants et aux mamans. On va se tourner vers des choses qui, un, nous font mal au corps, mais en plus nous font très mal au porte-monnaie, mais parce que aujourd'hui malheureusement la lumière elle est mise sur le temps. En fait c'est ça le nerf de la guerre, c'est que les gens n'ont plus de temps et donc ils se disent bon bah pour gagner du temps, pour pas perdre de temps, mais en fait non, parce que les enfants ils ont besoin de ce temps aussi quoi, donc
même adultes aussi hein.
oui c'est sûr, c'est sûr, évidemment. On en a tous besoin, et donc c'est pour ça que l'écoute pour moi ça permet vraiment de ralentir, parce que t'es dans un moment où tu fais pas 50 trucs en même temps, si tu veux vraiment écouter. Et je sais ce que c'est, puisque j'ai un TDAH, donc beaucoup de mal à me concentrer, enfin j'ai un truc. Mais en fait, quand je suis dans l'écoute, il y a rien d'autre qui existe. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est hyper difficile d'avoir ces moments, donc c'est précieux, quoi.
Je crois que c'est la cuisine en pleine conscience dont on parle maintenant. Redécouvrir le plaisir de cuisiner, manger en harmonie avec soi, accueillir ses sensations... Un rapport au vivant avec humanité, comme tu disais, Marion. Se reconnecter à son corps, ses véritables besoins, s'écouter sur tout ça. Oui. J'avais envie de vous partager un petit passage d'Isabelle Fiozat, qui est psychopathe... non, pas psychopathe. psychothérapeute.
Elle peut.
Surtout pas.
Écoutez-la.
psychothérapeute, autrice du livre de « Bien dans sa cuisine ». Un zeste de conscience dans la cuisine. Elle rappelle que l'alimentation est au centre de l'existence de chacun d'entre nous, que la cuisine est avant tout un lieu de partage familial, amical, amoureux. C'est aussi du collectif, un lieu de rassemblement où on se reconnecte avec ses émotions, à son propre corps. Et je trouvais que ça rejoignait tout à fait ce que tu voulais développer, l'intention dans ton projet, et notamment aussi dans ton travail d'écriture de plume pour le média... Restore.
Le collectif Restore, oui.
Ouais, qui est ta troisième activité.
C'est ma troisième activité, du coup, j'écris maintenant pour la newsletter de Restore, qui est donc un collectif qui a envie de rassembler le maximum de restaurateurs possibles pour les éveiller à des problématiques très importantes qui sont celles de la place des femmes en cuisine, la bienveillance, les nouvelles techniques de management, l'écologie, voilà, tous ces sujets qui sont sur la table et qui sont brûlants, quoi.
Vas-y. Non, en préparant l'interview, tu nous expliquais que c'était aussi de mettre en avant des projets marseillais, mais pas que, sur l'ensemble du territoire national. Comment tu travailles tes newsletters?
En fait, on fait des réunions de rédaction avec donc Iris Liberty, qui a créé Restore, et Lorraine Petit, qui est l'autre plume avec moi. L'avantage, c'est qu'on est copines, donc c'est facile de faire ces réunions de rédaction. Et en fait, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé sur la scène de la food, dans les semaines qui viennent de passer, quelles initiatives sont importantes à nos yeux. Et oui, on n'a pas envie de se focaliser uniquement sur la scène marseillaise, même si... Il se passe énormément de choses à Marseille sur le sujet, mais on essaye de parler d'initiatives qui sont partout sur le territoire parce qu'il se passe plein de choses. Et que c'est vrai que parfois, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver puisqu'il y a aussi cette fame de la food. Et en fait, comme tu disais tout à l'heure, on ouvre notre Insta et on a 50 000 recettes qui pop. C'est vrai que c'est difficile parfois de se dire « Attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Qui fait des choses bien ? Qui fait juste de la com ?» Voilà, donc là, c'est un peu tout rassemblé à un endroit pour essayer de parler des... En fait, c'est un cercle vertueux, quoi. Plus on en parle, plus il y a des choses qui se créent, plus on inspire des gens, et puis plus on peut rencontrer ces gens. Et donc, ça fait une petite communauté sympathique.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que du coup, on en a parlé en off. Mais voilà, justement, le fait, à l'ère numérique dans laquelle on est... Je trouve que la cuisine et le rapport à la cuisine a changé, peut-être en mieux aussi, parce que les gens ont peut-être plus conscience que bien manger, c'est possible. Mais je me disais, en préparant l'émission, qu'est-ce que ça doit être aussi compliqué de faire de la cuisine de nos jours, parce que non seulement ce que je te disais, c'est que ça doit être bon, mais aussi beau. Donc on est vraiment sur un art, en fait, qui dépasse même juste le fait de se nourrir. Que tu disais aussi un peu, Chloé. Qu'en est-il, Kézako, à l'heure du numérique, d'être dans la cuisine ? Qu'est-ce que...
Oui, je pense que c'est un peu à double tranchant. Il y a du bon, comme tu dis. C'est vraiment génial qu'on ait remis un peu la lumière sur nos assiettes parce que c'est essentiel. Et c'est surtout politique et c'est ce qui fait tourner le monde, en fait, l'alimentation. Donc c'est hyper important. Mais par contre, c'est vrai que le pendant un peu négatif, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est un peu chef. Tout le monde a ses conseils et du coup, parfois, ça perd un petit peu de son authenticité. Et je pense qu'il faut juste savoir évoluer avec son temps. Et moi, je sais que tous ces aspects-là qui peuvent être un peu négatifs font que aujourd'hui, je vais beaucoup moins sur mes réseaux sociaux. Je m'en occupe pas comme avant. J'ai moins envie de montrer. J'ai moins besoin de montrer absolument ce que je fais. Et surtout, ma cuisine s'est aussi développée avec ça. Où avant, c'était... Bon, le visuel reste toujours très important pour moi parce que j'adore les belles choses. Mais on va dire qu'avant, il y avait énormément d'informations parce que je voulais que l'assiette soit la plus belle possible. Et puis même dans les goûts, je mettais beaucoup de condiments, beaucoup de toppings, plein de sauces. Donc c'est vraiment super. Mais en fait, j'ai l'impression j'ai un peu perdu l'essentiel avec ça. Comme sur Instagram, on a un peu perdu l'essentiel de ce que c'est partager des recettes. Et aujourd'hui, je sais que je vais vers une cuisine qui est plus simple, où je vais choisir de meilleurs ingrédients, peut-être moins les travailler, essayer d'avoir des produits qui sont plus bruts, quitte à ce que ce soit moins sexy. Mais en fait, je sais que ça va être sexy dans l'intérieur de mon
palais.
Corps, quoi. Oui, et puis même dans mon estomac.
Pour l'organisme.
Exactement. Et je pense que c'est un parallèle qu'on peut faire un peu avec les réseaux sociaux. C'est que voilà, je crois que je suis un peu passée sur ce truc de il faut être trop cool et il faut se faire voir. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, on ne sauve pas des vies, quoi. On fait à manger, donc faut redescendre un peu.
Mais c'est vrai qu'on mange par les yeux aussi. C'est ce qu'on peut dire, que ça compte aussi le visuel quand on...
Ah, tout à fait.
Quand on arrive au resto et qu'on a une belle table, bien décorée, déjà il y a une ambiance. Et puis ensuite, t'as quelque chose qui se passe lorsque le plat arrive. Tu t'en délectes avant de le goûter.
Ouais. Et puis c'est vrai que j'ai pas rebondi sur l'art de la table tout à l'heure, mais ça c'est quelque chose qui est très important parce qu'en fait tu recrées avec des personnes, c'est des souvenirs qui sont éphémères, des repas pour des gens, tout le monde ne s'en rappelle pas longtemps. Mais en fait, créer une très belle table avec un bel art de la table et de belles assiettes qui arrivent, Bah, en fait, c'est des images qui restent en tête, quoi. Mmh. Et tu recrées comme un espèce de truc familial chez des gens que tu connais pas et que tu verras certainement plus le lendemain. Et je trouve ça trop cool d'arriver à les marquer comme ça dans un monde de la spontanéité et de l'instantanéité, voilà. Et ben là, en fait, c'est des images qui restent. Et moi, j'ai encore en tête des images de buffet que j'ai fait. Et ça m'a rempli de joie, quoi, de voir ces couleurs et tout, et de voir les gens qui découvrent les tables. Et tu te dis, ouais, c'est tellement simple. Enfin, en fait, c'est des betteraves, quoi. C'est pas grand-chose. Mais en fait, non, c'est beau. C'est plein de vie, quoi.
Moi, je sais que ma sœur, par exemple, elle n'aime absolument pas cuisiner. C'est vraiment pas quelque chose qui la botte. Alors que moi, vraiment, j'adore ça. Et je trouve ça hyper... Tu vois, je me disais, est-ce que son rapport, par exemple, à l'alimentation aussi dit quelque chose, tu vois, d'elle, de comment elle vit. Et en fait, elle adore, en effet, déjà avoir des beaux plats devant elle. Elle adore bien manger et elle adore l'art de la table, exactement. Mais elle ne prend pas plaisir à cuisiner, ne prend pas plaisir à installer. Elle a envie que les gens soient, par exemple, quand elle reçoit, elle a envie que les gens soient bien, mais elle va faire ça par d'autres attentions. Donc je me dis, c'est assez marrant parce que, comme tu disais, c'est un langage, la cuisine, mais il y en a tellement d'autres aussi, des langages, et c'est
elle
marrant.
Doit être très forte ailleurs.
Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, elle est sensible à ça, ouais. Elle adore ça, mais tout en n'aimant pas forcément le faire pour les autres. Parce que, voilà. Mais,
je pense que c'est pas quelque chose qui est inné pour tout le monde. Moi, c'est quelque chose qui a toujours été inné pour moi parce que, en fait, comme je me suis très tôt écoutée, j'ai compris, entre guillemets, ce dont mon corps avait besoin. Donc, en fait, je me suis dit, mais personne ne peut le faire à ma place. Mais c'est pas le cas de tout le monde et je pense que tout le monde ne met pas la même attention non plus sur ces sujets. Et c'est OK. Enfin, je trouve que c'est. Et puis ça va, ça vient aussi. Je pense qu'il y a des gens qui découvrent.
Ouais.
Tu vois, il y a des modes, il y a des trucs que tu peux attraper comme ça. Et puis, je pense qu'il faut être bienveillant avec soi. Et quand t'as pas envie de le faire, faut pas se forcer. Mais par contre, il faut pas mal se nourrir non plus, quoi. Il faut trouver un entre-deux. Ça, je pense que ça peut être difficile. J'ai plein de copines aussi qui n'aiment pas spécialement. Elles adorent bien manger, mais elles n'aiment pas spécialement se faire à manger.
Oui, puis après, il y a quelque chose aussi de cuisiner pour soi, cuisiner pour les autres, ou cuisiner quand on est en collectif. Moi, j'ai l'impression que cuisiner pour soi, ce plaisir de prendre le temps rien que pour soi, ça, c'est aussi un autre exercice.
Oui, j'imagine, mais pas pour moi, parce que moi, je prends toujours le temps même pour moi.
Ouais, mais c'est un peu lié à l'écoute, finalement. Ouais, ouais, bah ouais, toutes les trois, j'ai l'impression. Mais...
Bon, on aime cuisiner toutes les trois.
Ouais, ouais. Ouais. Mais du coup, tu vois, tu disais, c'est lié à nos émotions, ce que tu disais, et c'est aussi un moment de silence, et tu disais que t'as besoin, en fait, dans l'écoute, de te poser.
Ouais.
J'ai l'impression, en tout cas, toutes les trois, que c'est un moyen. Tu sais, il y en a beaucoup qui parlent de la méditation active, c'est-à-dire
c'est pas
juste assise. Et tu
moi, c'est un moment, d'ailleurs, où j'aime pas trop forcément qu'il y ait de la musique ou du bruit. C'est mon petit moment à moi, et c'est comme un exercice. Enfin, c'est comme de la méditation, ouais. C'est un moment que tu t'offres, presque. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre comment on n'aime pas cuisiner, mais je l'entends. Et c'est vrai que ça fait tellement du bien.
Ouais, après, il y a peut-être des gens qui n'aiment pas être seuls face à leurs pensées aussi.
Aussi.
Mais moi, c'est vrai que avec un cerveau qui fuse en permanence et qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit dans ma tête, quand je cuisine, même quand c'est pour des événements, je veux dire, pas forcément que pour moi, c'est les seuls moments où je trouve du calme et de la paix, quoi. Donc, c'est quand même hyper cool d'avoir
trouvé
ce moment.
C'est bien d'en faire ce travail, carrément.
Ouais, oui, on confectionne avec tel et tel ingrédient. Du coup, c'est un moment aussi où on peut être créatif. Et on est dans l'instant présent parce qu'on goûte. On se dit, on peut peut-être ajouter ça.
Et puis, ajuster. On voit directement les résultats de ce qu'on est en train de faire. Et je crois que ça, moi, c'est un truc qui me motive beaucoup. Les projets super longs, avec des choses qui sont pas tangibles, ça me... Ouf, je passe à autre chose, quoi. Alors que là, la cuisine, bah, en fait, tu veux, tu prends, tu fais, tu manges, puis c'est bon, quoi. Et entre-temps, tu t'es fait du bien, donc c'est quand même pratique.
Et je me questionnais aussi sur ton rapport au... Parce qu'on parlait du vivant tout à l'heure... On parle cuisine, donc forcément on parle producteur. Est-ce que tu vas à la rencontre des producteurs auprès de qui tu te provisionnes?
Alors j'ai arrêté de le faire parce que ça demande du temps. Mais j'ai maintenant des producteurs par qui je passe et surtout j'ai l'habitude de travailler avec eux, j'ai leur mercurial et souvent c'est pas des producteurs en direct parce que ça c'est assez compliqué pour se faire livrer, surtout quand c'est des événements qui sont ponctuels. En fait, quand on est dans un resto, c'est beaucoup plus facile d'avoir des approvisionnements clean, entre guillemets, parce qu'on sait que bah, du lundi au vendredi, ou 5 jours par semaine, le resto tourne. Donc tu fais tes commandes, tu sais que tu as X quantité. Quand tu fais du traiteur, c'est beaucoup plus aléatoire, à moins d'être un gros traiteur qui fonctionne 5 jours par semaine, mais bon, c'est pas mon cas. Donc là, c'est toujours un peu plus compliqué, mais bon, en fait, une fois que t'as trouvé les bonnes personnes, c'est vrai que je vais pas chercher beaucoup plus loin, quoi.
Oui, parce que c'est vrai que sur le territoire, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de fermes, beaucoup de maraîchers, c'est assez dense.
Et puis, il y a de plus en plus de choses qui se créent. Notamment, il y a des fermes urbaines qui sont superbes à Marseille. Il y a le Talus, il y a la ferme Capri. Il y a des fermes... Il y a une ferme Open Mirabeau avec des animaux, des plantes. Enfin, c'est... Il y a vraiment de plus en plus de choses, quoi. Donc, en tout cas, c'est vrai que pour se nourrir en tant que particulier, je trouve ça toujours cool de se dire qu'on arrive à prendre un moment dans la semaine pour aller directement chez le producteur, surtout si on a des enfants. En fait, ça fait une sortie et en même temps, tu peux aller récupérer ton panier. Et le concept du panier de légumes, je le trouve génial. Et moi, c'est ce que je fais pour chez moi, en tout cas depuis des années maintenant. En fait, j'aime plus choisir mes légumes. J'aime bien qu'on me dise « bon, bah, cette semaine, il y a ça ». Allez, vas-y. Parce qu'en fait, le chou frisé, ça me saoule de le faire. Bah, quand j'ai un chou frisé, je suis trop contente et je me dis comment je vais le pimper cette semaine alors que je ne serais pas allée vers lui. Et je trouve que, comme on a beaucoup le choix pour tout, trop de choix, parfois c'est cool et c'est la contrainte, comme je disais tout à l'heure, ça peut faire un peu de bien, quoi.
La nature nous le rappelle un peu.
Exactement.
En fait, non, il n'y a pas tout. Il faut être patient si tu as envie d'attendre les fraises.
Exactement. Et ça, c'est un truc aussi que j'adore apprendre aux enfants.
Ouais, mais carrément.
On ne peut pas tout avoir quand on veut.
Oui, les tomates, c'est l'été, les fraises aussi. Ouais. De se reconnecter au vivant, de se reconnecter aux saisons, à notre cycle aussi, du coup. Hein.
C'est ça.
Et on a un peu le temps encore, mais je me demandais, forcément, en fait, ton travail évolue aussi en fonction de toi, comment tu évolues dans ta vie, comment on sent, est-ce qu'on découvre ce qu'on fait, et est-ce que les voyages, toi, si tu as voyagé, déjà, est-ce le cas? Et est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a nourri? Est-ce que t'as pu voir aussi comment la cuisine était perçue dans d'autres pays, dans d'autres cultures? Et est-ce que, en plus, en disant que tu vois, t'avais grandi avec deux cultures différentes, ou peut-être que la nourriture n'est pas forcément abordée de la même manière, ou pas? Voilà, comment ça a nourri un peu ton travail?
Donc oui, j'ai beaucoup voyagé, j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé et j'adore ça. Je pense que le voyage, ça m'a déjà permis de regarder la cuisine par un prisme différent du nôtre, d'un prisme français, avec des saveurs qui sont différentes, avec des heures de repas différentes, avec des manières de préparer qui sont différentes. Et sur mes derniers voyages, je crois que ça a surtout guéri quelque chose chez moi qui était... une très grande je n'ai pas le mot, c'est dommage. Vous savez, je suis pas patiente et je veux les choses tout de suite.
Impatiente.
Ouais, bon, c'est pas grave, on n'aura pas le mot aujourd'hui. Mais en fait, j'avais ça avec la nourriture où je pouvais avoir. Enfin, en fait, on est parti avec mon amoureux 7 mois en Asie et moi, je suis capable sur la baie d'Along de dire je veux un couscous boulette maintenant. Bah en fait non ma grande, ça va pas être possible, quoi. Donc ça m'a aidé à calmer un peu mon impatience et en me rendant compte que ces petits caprices là ils étaient possibles dans ma vie quotidienne parce que j'ai le choix en fait et je m'en rendais pas compte. Et quand tu vas en Asie au début t'es trop content et en fait quand t'as mangé du riz pendant 3 mois littéralement t'as envie de pleurer parce que tu ne peux plus te le voir. Sauf que quand les gens te servent un bol de riz et que toi, t'es pas très content qu'ils le voient sur ton visage, ils te disent « mais je te fais un cadeau, moi c'est ça, nous c'est ça qu'on mange et on le mange tous les jours et c'est bien, t'es contente ». Et en fait, tu dis « mais pour qui je me prends ?» Mais en fait, évidemment que c'est super en fait et en fait, je vais manger ce qu'on me donne. Et ça, je crois que ça m'a beaucoup, ça m'a appris la patience, ça m'a appris la tolérance. je peux un peu en manquer. Je pense qu'on en manque tous hein, dans les sociétés qui sont pressées. En fait, on peut avoir tendance à voir par son individualité. Et je crois que le voyage, ça aide aussi à ça, à se rendre compte en fait de la chance qu'on peut avoir. Et que parfois, le fait d'avoir trop de choix, c'est pas une chance, c'est que c'est au contraire enfermant, quoi. Donc ça ouais, remet un peu...
On devient blasé et ouais, c'est hyper triste.
C'est ça. Et puis surtout, on veut. Mais comment ça, on veut? Non, c'est s'il y a pas, il y a pas. Et puis tu fais ce qu'il y a, quoi. Donc ça remet un peu l'église au milieu du village, je trouve, les voyages. Et pour ça, c'est pas mal.
Ton dernier voyage qui t'a inspiré, c'était lequel?
Mon dernier voyage en date, c'était Alger.
Retour aux sources.
Ouais, c'est ça. Et là, j'y vais de plus en plus souvent. J'y vais la semaine prochaine, donc pour la fin du Ramadan, donc je vais bien manger.
Oh ouais, tu m'étonnes.
J'ai pas pris mes billets pour rien à ce moment-là. Donc non, et ça, oui, c'est en effet. Mais quand j'écris sur l'Algérie, c'est la synesthésie. Enfin, je marche beaucoup comme ça et j'ai des odeurs, j'ai des couleurs, j'ai le toucher, enfin j'ai même les paumes des mains qui frissonnent rien que de penser à une mosaïque, une faïence, et ça me rappelle une odeur. Enfin en fait c'est la cuisine là-bas, en tout cas dans ma maison, la maison familiale où j'ai grandi, parce que j'y ai grandi jusqu'à mes 4 ans. La cuisine c'est tout, enfin c'est vraiment la pièce centrale. Donc oui, pas étonnant que je sois là où je suis aujourd'hui. Hein.
Et pour finir l'émission qui arrive, est-ce que tu peux nous décrire, pour nous donner un peu envie, un plat que tu adores cuisiner?
J'allais demander la même chose que on est connectés, j'étais en mode, mais je veux une recette.
C'est ça, exactement.
Je pense qu'une recette que
Pour les auditeurs qui nous écoutent,
prenez vos casseroles.
Ouais. Je pense que c'est un peu tard, si vous voulez la cuisiner. Ah, ouais. Mais vous pouvez la faire demain. Allez, vas-y. Peut la préparer maintenant pour la faire demain. J'adore faire des wraps de lentilles corail. En fait, c'est très sain et du coup, on ne mange pas de gluten. Ça marche pas trop avec moi, le gluten. En fait, il suffit, je mets des guillemets quand je dis ça, de faire tremper des lentilles corail pendant 24 heures dans de l'eau, dans le double de son eau. Le lendemain, on mixe, on sale.
On les rince ou même pas?
Pas besoin. Okay. On sale, on poivre. Et le lendemain, on peut, une fois que c'est mixé, on peut juste le couler dans une poêle comme une pâte à crêpes. Et en fait, ça fait un wrap. Et c'est super bon. Moi, je mets du curcuma, des épices, donc c'est orange, c'est trop bon. Et après, vous mettez absolument ce que vous voulez dessus. Alors, on va dire un houmous de betterave en ce moment avec une salade de crudité et, je sais pas moi, un peu de feta et de la mélasse de grenade et de la coriandre.
Oh là là. Ouais, j'ai faim. Avec un petit filet d'huile d'olive parce qu'on est dans le sud.
Exactement.
Et vous allez vous régaler.
Bah écoute, chiche, on fait ça, Chloé.
On te dira, Myriam.
Vous m'en direz des nouvelles.
Ouais. Bah, merci beaucoup déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. Bon, j'en aurais plein d'autres, mais qu'on je te poserai en off. Et en tout cas, donc t'as un site internet sur lequel on peut aller checker tes actualités. Est-ce que t'as des réseaux sociaux sur lesquels on te suit, vu que tu fais une petite détox en ce moment?
Je suis quand même toujours présente. Donc mon Instagram, c'est zarma-marseille. Mon site internet, c'est mamazarma. Et puis vous pouvez me retrouver ce week-end avec Vegan sur Mars à la fête des plantes au Mucem. Et on fera notamment un super hot dog végétarien.
Je viens, moi.
Ah bah, trop bien.
Un week-end plein de promesses pour nos papilles.
Elles seront tenues. Merci beaucoup.
Et pour clôturer cette belle émission gourmande, tu as choisi une musique. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix? Pourquoi celle-ci?
Alors j'aimerais avoir une super histoire à vous raconter, mais c'est juste la musique que j'écoute en repeat en ce moment parce que je l'adore, elle me déconnecte quoi, j'adore.
Eh ben merci beaucoup.
Merci.
On va écouter ça avec vous et à très vite Myriam.
À bientôt.
À bientôt. Belle soirée.
After.